Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 85 radios et 3 télévisions en live sur Facebook. Et ce soir, le Grand Dialogue s'intéresse au discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé à la nation. Un discours que le mouvement M5, mouvement du 5 juin, estime être une déception. Pour en parler, nous avons invité 3 personnes. Balan Diakité, politologue, chercheur au CRAPES, centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Docteur Souleymane D, constitutionnaliste, professeur à l'université de Bamako, et Bassirou Ben Doumbia, président de la conscience citoyenne pour la démocratie et le renouveau au Mali, considère. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
Balan Diakité, le président de la République s'est adressé à la nation hier soir à minuit. Quelle analyse faites-vous de ce discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta?
Merci Touré, merci pour l'invitation, merci également à nos chers téléspectateurs. Alors pour analyser le discours du président de la République hier soir, il faut dire que c'était un discours qui a été provoqué, voilà, c'était un discours provoqué à mon sens. Provoqué dans la mesure où, si l'on prend le contexte, on sait qu'il a fallu bien évidemment que les leaders du M5 annoncent effectivement une nouvelle manifestation le 10 juillet, c'est-à-dire demain, pour que le président puisse sortir hier soir. Et il était obligé de sortir parce que en cas de silence, il allait être taxé justement d'arrogant encore une fois de plus, de quelqu'un qui n'est pas au Mali, de quelqu'un qui s'en fout pas mal des problèmes de la société. Et donc pour éviter bien évidemment, des critiques de ce genre, le président, il était obligé de sortir hier soir. Donc, c'était un discours quand même, si l'on regarde du point de vue de la forme, je dirais que le président a essayé tout simplement de se donner une légitimité parce qu'il a rappelé tout simplement les différents actes qu'il a posés ces derniers jours, notamment en termes de concertation avec les différentes sensibilités de la nation. Donc il a rappelé cela, c'était une manière aussi de prendre la communauté internationale et bien évidemment le reste du monde témoin des actes qu'il est en train de poser. Donc à mon avis, le président il a essayé hier soir de se donner une légitimité et de se justifier aux yeux de la nation et de prendre témoin la communauté internationale des différents actes qu'il est en train de poser ces temps-ci. Donc ça, c'est sur le plan de la forme. Sur le fond, on a vu que ça a été quand même un discours qui était orienté. J'ose dire même que c'était un discours basé sur la stratégie de la langue de bois, c'est-à-dire le président, il se pose des questions. Il est lui-même celui qui va donner les réponses à ces questions et ces réponses-là sont orientées. Voilà, en communication politique, on appelle ça la langue de bois. Et donc, du point de vue du langage utilisé, on voit bien évidemment qu'il prend un paradigme qui est tout à fait à l'antipode du paradigme des leaders du M5. Cela se reflète bien évidemment dans le choix des mots. Par exemple, il parle de manifestation d'une partie de nos compatriotes au lieu de parler de manifestation d'une partie du peuple, le peuple étant une notion hautement politique, et là, il ne fait pas usage du peuple. Également, vous avez la considération qu'il fait de cette manifestation en disant que ça donne une vitalité à notre démocratie. C'est vrai, les manifestations donnent une vitalité à la démocratie, mais ces manifestations, au fond, au-delà même de la vitalité démocratique, c'est en fait l'expression d'une insatisfaction de la gestion du pouvoir. Et là, le président, au lieu de parler en ces termes, il préfère parler de vitalité de la démocratie. Donc là, je crois qu'on était dans un jeu de mots qui était là, qui reflète bien évidemment le paradigme dans lequel le président se place.
D'accord. Bassirou Ben Doumbia, quand vous écoutez ce discours du président de la République, avez-vous l'impression que ce sont des décisions qui sont prises ou étaient-ce des propositions faites par le président de la République?
Alors, merci d'abord Touré pour l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir sur la question de la sortie du président. D'abord, il faut déclarer que nous sommes à une phase très critique des tensions parce que le discours intervient à 48 heures avant la manifestation annoncée par le M5 qui est prévue pour le 10, c'est-à-dire demain. Alors quand le président sort pour faire une déclaration pareille, le premier contexte dans lequel on l'inscrit d'abord, il se situe dans une dynamique d'accalmie. Il veut chercher à calmer les tensions, il veut chercher à faire baisser la température. Mais quand on parle dans le fond, le discours, je vois parfois des promesses, mais je vois aussi des décisions. Et les décisions, je crois qu'il ne m'appartient pas de le dire. Le président l'a lui-même signifié dans son discours. Quand il parle de la décision qu'il a prise par rapport à la résolution du problème de l'article 39 concernant la grève des enseignants qui a paralysé l'école pendant plusieurs mois, quand il parle également de l'engagement de l'État à mettre des moyens en place en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus, ça, ce sont des faits, certainement, qu'on a vus. On a presque tous reçu quand même de l'assistance, de l'aide de l'État, ne serait-ce qu'en matière d'électricité. Voilà, donc...
Il s'agit de décisions prises par rapport aux problèmes au problème résolu,
mais même isolé. On pourrait dire comme ça, isolé, parce que quand on regarde la revendication du M5, elle est plus globale. Voilà, les revendications vont au-delà de la pandémie, les revendications vont au-delà de la charte de vie, les revendications vont au-delà même des considérations partisanes. C'est le Mali qui est mis en jeu et le combat du M5 s'inscrit dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, je crois que je ne suis pas le seul à le dire. Tout le monde aujourd'hui est unanime que le combat du M5 est un combat légitime quand on regarde les fondements de leurs revendications. Maintenant, par rapport au discours du président, très honnêtement, je crois que la seule mesure perceptible, même pas, qui reste encore une promesse, c'est le remembrement de la Cour constitutionnelle qui va se faire avec l'assistance des partenaires du Mali, notamment la CEDEAO. Mais au fond, on s'attendait à un discours qui allait peut-être réellement apporter de l'eau dans le vin de l'autre camp, c'est-à-dire prendre des décisions, annoncer des décisions fermes, comme il a pu le faire sur la situation de l'article 39. On aurait pu entendre cela.
Et ça semble ne pas être le cas, puisque joint par Studio Tamani ce matin, Issa Kaoudjim déclarait que ce discours du président de la République est une déception. Ce sont ses mots.
Oui, la grande majorité des Maliens seront déçus quand on analyse du point de vue émotionnel. Mais quand on part un peu quand on essaie de s'inscrire dans la logique du président Ibeka, il veut rester directement comme l'a dit un homme politique, dans le fétichisme constitutionnel. Parce que les conditions de dissolution, par exemple, une des mesures fortes à laquelle les gens s'attendaient, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple. Et sur la question, l'article 42 est clair là-dessus, et je crois que il y a un constitutionnel qui est ici, qui aura le temps de nous briefer là-dessus. L'article 42 est clair en la matière. Les institutions de la République ou le fonctionnement régulier des institutions n'est pas mis en cause, alors je ne vois pas l'utilité pour moi, en tant que juriste, même bien vrai que je ne suis pas constitutionnaliste et spécialisé en droit constitutionnel, je ne vois pas l'utilité aujourd'hui pour le président de la République de faire appliquer l'article 42. Et l'autre risque également que je pourrais analyser, c'est le risque de l'effet du précédent. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le M5 ne peut pas représenter le Mali dans son entièreté. Le M5 ne peut pas représenter le peuple malien, même si les revendications s'inscrivent dans l'intérêt du peuple en général. Mais du point de vue de la représentativité, je crois qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie du peuple malien aussi qui n'est pas avec le M5, qui n'est pas non plus avec le pouvoir exécutif, le pouvoir en place ou le régime. Il y a aussi une bonne partie qui est avec le régime, qui n'est pas avec le M5. Donc aujourd'hui, difficile, on peut dire que le M5 représente du point de vue représentativité l'ensemble du peuple malien. Donc partant de là, il est évident que le président peut prendre peur ou peut optimiser les risques en évitant de rentrer dans ce jeu politique qui risque de mettre en mal sa gestion future d'ici 2023. Voilà.
Alors, Balandja Kité estime que le président a voulu se donner une certaine légitimité à travers ce discours. Vous estimez que quand on l'analyse aujourd'hui de façon émotionnelle, il est clair que les Maliens vont se sentir déçus. Souleymane Dé, quand vous avez écouté ce discours du président de la République, avez-vous été déçu?
Moi, sincèrement, permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs et vos auditeurs. Je suis obligé de rester dans ma posture d'universitaire, pas dans ma posture de citoyen malien, même si, bien sûr, il est très difficile de dissocier les deux. Moi, je ne peux pas dire que j'étais déçu, mais depuis hier, je suis très inquiet. Très inquiet pour quelques raisons. D'abord, sur la forme, comme mon ami vient de le faire, Balandja Kité, c'est quand même une première au Mali. Vous savez que nous parlons de la première institution de la République qui s'est adressée à la nation. L'annonce de cette adresse a été donnée par l'imam Mamoudiko. Les canaux traditionnels qu'on a pour dire aux Maliens que le président va s'adresser, on ne les a pas utilisés. On a appris par l'imam que le président va s'adresser à la nation.
À travers la conférence de
presse. Bien sûr, et ce qui est très grave, ça ne doit pas se faire passer comme ça. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est quand même incroyable que le président de la République, qui est censé s'adresser à son peuple, nous incite, ou du moins nous oblige à veiller pour venir s'adresser à minuit. L'heure à laquelle il s'est adressé à la nation n'est pas une heure appropriée.
Donc vous pensez que le discours devrait être...
Écoutez, vous vous adressez à votre peuple. Dans aucun pays du monde, on a vu un président s'adresser à une heure aussi tardive. Jamais on ne l'a vu. Ça ne s'est jamais produit. Ça, c'est sur la forme ce que j'ai
dit. C'est pour le nouvel an.
Mais sur le fond, c'est encore ce qui est très grave. J'entends que beaucoup utilisent la notion de peuple. Nous, on le sait, c'est une notion très volatile. Mais il va simplement s'en dire que la définition la plus simple, c'est l'ensemble des citoyens qui vivent sur un territoire ayant en relation ou en commun la nationalité. Et ces peuples-là, vous le savez très bien, que nous, si nous prenons notre conscience du 25 février 92, notre régime même est fondé sur cette notion de peuple. Et la devise qui est un gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple, et même la devise qui est un peuple, un but, une fois, nous renvoie à dire que le peuple est un tout indivisible. Lorsque c'est un tout indivisible, on se rend compte à cela que c'est l'article 26 qui le dit. C'est la seule constitution qu'on a dans la sous-région qui parle du peuple dans son entièreté. Le Mali est le seul pays de la sous-région où on dit, l'article 26, la souveraineté appartient au peuple tout entier. Ça voudrait dire que cette notion de fraction est inadmissible et ne peut même pas être, bien sûr, admise dans notre approche. Raison pour laquelle je comprends bien, Bassirou, que le M5 ne peut pas se réclamer du peuple. Ni moi-même, le président de la République lui-même, quand bien même il a été élu, si nous voulons aller au fond des textes, on ne peut même pas parler encore de peuple à ce niveau. Parce que quand vous regardez chez nous qu'on a 8 millions d'électeurs...
Pour mieux comprendre, vous dites que le M5 ne peut pas se représenter du peuple. Représenter tout le peuple.
Le M5 ne peut pas représenter tous les peuples. D'accord. C'est ce que la Constitution du Mali dit, peuple tout entier. Et encore une fois, je le dis et je le répète, tout le monde peut se réclamer également de ses peuples. Donc, ce n'est pas pour moi le point de focalisation. Le point de focalisation, pour nous, en tant que juristes, on ne sait pas quoi apporter à ces débats. Mille fois, on a dit que la crise a atteint un tel niveau que la solution n'est pas juridique, mais politique. Et pourtant, on a entendu le président hier dire qu'il préconise encore des solutions juridiques. Je ne sais pas comment il veut les faire. Moi, j'ai considéré en tant qu'universitaire hier, très amer après le discours, sur un certain nombre de points. Quand le président de la République dit... Nous allons faire appel, ou du moins est-ce que incessamment viendront au Mali les présidents des juridictions constitutionnelles de la CEDEAO. C'est pour venir faire quoi? Pour venir dire quoi? Le contentieux électoral est d'abord national. Ils vont venir dire quoi? Premièrement. Deuxièmement, quand il nous dit, il y a bien sûr encore des autres de la CEDEAO qui vont venir pour discuter encore de quoi? Vous imaginez, pendant longtemps, c'est son discours. Et c'est le discours de tous les hommes politiques de ces pays que nous ne nous sortirons pas de nos problèmes que par nous-mêmes. Et c'est quand même très grave. Nous, ce qu'on a retenu comme discours, c'est que...
Partons sur le remembrement de la Cour constitutionnelle par le président de la
Cour. Sur le remembrement de la Cour constitutionnelle, on va le dire aussi, on n'a pas compris ce que le président a voulu dire. Il a dit qu'il va prendre ses responsabilités pour remembrer la Cour.
Vous, en tant que juriste constitutionnaliste, vous n'avez pas compris ce que
le président a voulu dire. Les textes sont très clairs. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. C'est l'article 91 qui le dit. D'ailleurs, dès le départ, il faut le dire que dès la composition de cette Cour constitutionnelle, on a violé la Constitution. L'article 91 dit que les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés principalement, l'adverbe est là pour ça, principalement parmi les professeurs de droit, parmi les avocats, parmi les magistrats. Et cette Cour constitutionnelle est composée essentiellement des magistrats de l'ordre judiciaire. Ils sont 8 contre un seul administrateur civil. Il n'y a pas de professeur de droit, il n'y a pas d'avocat. C'est la composition même de la Cour qui est irrégulière. Mais on ne l'a jamais dénoncé. Bien sûr, en tant qu'universitaire, on l'a dénoncé en son temps. On n'a pas corrigé. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a une conséquence sur la qualité des décisions qui sont rendues. Aujourd'hui, nous vivons la mauvaise qualité des décisions parce que la Cour est mal composée. Premier élément. Le deuxième élément par rapport au remembrement, comme vous avez dit, la Constitution est très claire. C'est le président qui nomme 3. Parmi les 3, 2 sont démissionnaires.
Il ne reste que parmi le lot que le président a nommé, en tout cas parmi les conseils que le président a nommé, il ne reste que Manassa. Donc s'il y a remembrement, le président n'a compétence que de donner deux. Et parmi les membres de la, parmi les démissionnaires, il y en a également deux qui relèvent de la compétence de nomination du président de l'Assemblée nationale. Et il y en a également deux qui relèvent de la compétence de nomination de du Conseil supérieur de la magistrature.
Donc, signifie que Manassa va garder son poste de présidente de la Cour constitutionnelle.
Dans les textes, à l'état actuel, le président ne peut pas démettre Manassa. Il ne peut pas dissoudre la Cour constitutionnelle.
Et on va y revenir avec plus de détails. Balan Diakité, aujourd'hui, M. Souleymane estime que la solution à cette crise n'est pas juridique. Et c'est un juriste qui le dit. Il estime que ce sont des solutions politiques qui doivent être apportées. Pensez-vous qu'à travers ce discours du président de la République, des solutions ont été politiques ou juridiques?
En tout cas, les solutions politiques n'ont pas été au rendez-vous, ça il faut le dire. Et si vous regardez bien les manifestants du 5 juin, qu'est-ce qu'ils demandent? Le M5, ils demandent tout simplement la démission du président de la République. Maintenant, à défaut de la démission du président de la République, ils demandent à ce que l'Assemblée nationale soit dissoute. Ils demandent à ce que la Cour constitutionnelle soit dissoute. Et donc, ça, ce sont bien évidemment les réclamations des manifestants du 5 juin. Et donc, on attendait bien évidemment de la part du président de la République, si réellement il était dans une logique de proposition de solution politique, de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce qui était demandé. Et l'article 42 lui permet bien cela. Il a effectivement la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Ceux-là qui disent ici et là que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale jusqu'à une année, un délai de une année, ils n'ont pas compris l'esprit de la Constitution. La Constitution dit que le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant, une fois que dissolution est faite, c'est après cette dissolution que le président ne peut pas dissoudre encore une fois l'Assemblée nationale s'il n'y a pas un délai de un an qui est déjà atteint. Donc ça, c'est ce qui est dit dans la Constitution. Et donc aujourd'hui, nous sommes effectivement, comme il a dit tout à l'heure, dans une situation où le cadre juridique a montré ses limites, où la Constitution elle-même est entachée de vide juridique parce que, il faut voir, nous sommes aujourd'hui dans une crise de légitimité dans laquelle crise le président lui-même est indexé. Pourtant, dans la Constitution, on n'a pas en fait une procédure légale formellement inscrite dans la Constitution qui permet au peuple de réclamer la démission du président de la République. Raison pour laquelle, quand on parle de démission du président de la République, on entend ici et là des gens dire que c'est un putsch qui se prépare. Non, c'est quelque chose qui est illégal. Mais si on est dans l'esprit de la démocratie et que la souveraineté appartient au peuple et que c'est le peuple qui a nommé le président, si ce peuple est insatisfait de la gestion du président, c'est tout à fait logique et normal que le peuple demande la démission du président. Donc ça, c'est à mon avis par rapport au débat sur les questions relatives à des solutions juridiques ou politiques. Maintenant, si l'on revient toujours au discours, vu que c'est ça le sujet principal aujourd'hui, on voit bien évidemment que le président, parlant même des manifestants, il a mis du doigt le fait que cette manifestation entache quelque part l'image du Mali. Et quand le président parle de l'image du Mali, on voit bien évidemment que le discours s'adresse bien évidemment à nos partenaires étrangers. Donc on parle de l'image du Mali parce que tout simplement le président de la République se préoccupe de la perception que les partenaires étrangers peuvent avoir sur le pays. Ensuite, il a mis également en évidence que la survie de la nation dépend de trois exigences, à savoir la reconquérir l'intégrité de notre territoire, vaincre la pandémie au double plan sanitaire et économique, et ensuite émergence, le projet d'émergence nationale. Et donc, si vous regardez ces trois points que le président lui-même a cités comme étant des exigences aujourd'hui qui sont indispensables pour la survie de la nation malienne, on comprend bien évidemment que du point de vue de la reconquête de l'intégrité de notre territoire, pratiquement, je ne dirais pas que rien n'a été fait, mais il faut admettre tout de même qu'il n'y a pas de résultats concrets à ce niveau. Si vous regardez la lutte contre la pandémie de la COVID-19, c'est vrai que sur le plan économique, le président il a essayé de faire une assistance sociale. On a vu qu'il y a des sacs de riz qui ont été apportés ici et là. Il a également permis à ce que certains citoyens puissent avoir de l'électricité pendant un mois gratuitement. Mais à part cela, on voit que le nombre de cas confirmés ne fait qu'augmenter. Au départ, nous étions à 2-3 cas confirmés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000. Donc ça, cela démontre la gestion calamiteuse de cette affaire de pandémie.
À l'Assemblée nationale, quand le président de la République estime qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a pris des décisions qui ont posé des problèmes et qui continuent à poser des problèmes, et que, selon lui, il espère que le remembrement de cette Cour constitutionnelle devrait pouvoir permettre de résoudre cette question de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous pensez que ce remembrement va pouvoir réellement changer quelque chose par rapport à la volonté du M5 qui est la dissolution de l'Assemblée?
Le président cherche à déplacer le problème. Le problème n'est pas à ce niveau, en fait. Remembrer la Cour constitutionnelle, ça ne va pas résoudre le problème. Tant que la décision que la Cour constitutionnelle a donnée et qui continue toujours à produire des effets juridiques dans les faits, les citoyens seront mécontents, parce qu'il faut admettre que cette Cour constitutionnelle est incarnée par une personne qui est la personne de Manassa, dont les citoyens n'en veulent pas, finalement. Et on dira que le problème du Mali, c'est un problème d'hommes, c'est un problème d'institutions, mais il n'y a pas de différence entre institutions et hommes.
L'homme qui est dans l'institution... Est-ce que vous pensez que Manassa va changer de poste ou qu'elle va rester toujours présidente de la Cour constitutionnelle?
C'est au président de le décider et c'est à Manassa aussi de le décider. Si toutefois elle veut démissionner, elle peut démissionner. Au cas contraire, si le président peut jouer également sur sa relation avec Manassa pour demander paisiblement sa démission, alors il peut le faire. Dans tous les cas, la solution appartient au président de la République. Et hier soir, on n'a pas vu justement des décisions concrètes qui vont dans le sens de la résolution des problèmes. Parce que dissolution de l'Assemblée nationale, il a constitutionnellement le pouvoir de le faire. Il ne veut pas le faire par souci de justice. Pourtant, ceux qui ont été trichés pendant ces élections, publiquement, ces personnes-là, leur justice, on n'en parle pas. Mais on se soucie de la justice quand ça arrange bien évidemment ceux-là qui sont les nôtres, qui sont dans l'Assemblée nationale. Donc à ce niveau, il y a tout un problème dans le discours du président. Et enfin, il a parlé d'une notion qui rentre toujours dans le cadre des trois exigences, à savoir l'émergence nationale. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que le président veut dire par là. L'émergence nationale, ça veut dire quoi? En économie, on parle bien évidemment de l'émergence économique.
D'accord, on
parle
des pays émergents,
mais l'émergence nationale, ça n'a pas de consistance économique.
Doumbia, est-ce que vous avez vu des décisions concrètes dans ce discours du président de la République par rapport à la résolution de cette crise sociopolitique? Parce que Balan Diakité semble ne pas avoir vu de décisions concrètes.
Oui, c'est ce que j'avais dit initialement. Je dis que si on analyse le contexte et l'urgence qui est là, difficilement on pourrait être satisfait. Maintenant, quand on essaie d'aller dans l'analyse, je dis bien dans l'analyse, ça, on sort de l'émotion, on sort des questions partisanes, on fait l'observation et on en tire des conclusions de manière très neutre. Maintenant, avant de répondre parfaitement à votre question, il y a deux précisions que je voudrais apporter au propos de Balan. Quand il parle de la possibilité du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale sur le fondement de l'article 42, je voudrais juste lui rappeler que l'article 42 exige un élément matériel. L'élément matériel, c'est la mise en mal du fonctionnement régulier des institutions de la République. Et aujourd'hui, la manifestation, certes, elle existe, des menaces existent, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces institutions, le fonctionnement régulier des institutions de la République est mis en cause? Je ne pense pas. C'est des hommes qui sont mis en cause et non les institutions. Et je suis entièrement d'accord avec vous quand vous faites la confusion entre l'institution et l'homme. Mais ici, le cas, on a 8 institutions. Si les 8 institutions de la République, c'est le pouvoir du président de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui contesté. Il ne faut pas qu'on se le cache. Aujourd'hui, c'est l'élection de Moussa Temeli et surtout au sommet de notre représentation nationale qui est problématique et surtout encouragée par quelqu'un ou des personnes qui étaient censées incarner la sagesse, qui étaient censées incarner l'État de droit, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Voici le vrai problème.
Mais justement, à travers la demande de dissolution de la Cour constitutionnelle, est-ce que les manifestants ne sont pas en train de demander le changement des personnes qui dirigent ces différentes institutions?
Oui, je l'avais dit par le passé sur d'autres plateaux. J'ai dit que dans une certaine mesure, il y a un écran qui est là entre la personne de l'institution, la présidente surtout, puisque c'est elle qui incarne l'institution, et l'institution elle-même. Donc quand on parle en réalité de la Cour constitutionnelle, automatiquement c'est Manassa
Manassa qu'on voit. Ou lorsqu'on parle de Manassa, c'est la Cour constitutionnelle qu'on voit. Et c'est la même chose qui se passe aussi lorsqu'il s'agit du pouvoir du président de la République, ou encore lorsqu'il s'agit du pouvoir du président de l'Assemblée nationale, ou encore lorsqu'il s'agit du pouvoir du Premier ministre.
D'accord, Doumbia, pour mieux comprendre, quand il y a un problème avec des personnes qui gèrent une institution, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a un problème avec cette institution, puisque les personnes qui la gèrent ont des problèmes?
Les institutions sont régies par des règles. Il y a des hommes à la tête de ces institutions pour faire réguler, pour faire fonctionner ces textes qui régissent les institutions. Maintenant, lorsque l'éthique et la déontologie de l'homme qui est chargé de réguler l'institution n'est pas en phase avec l'esprit des textes, il y a nécessairement un décalage. Et ce décalage va créer des frustrations au niveau de la gouvernance, au niveau des gouvernés, au niveau des citoyens. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui.
D'accord.
Le problème n'est pas lié au texte. Les textes que nous avons au Mali sont parfois plus pertinent que les textes que nous avons dans nos pays, dans certains pays de la sous-région. Le professeur, le constitutionnel venait de le dire, on a l'une des meilleures constitutions. Mais pourquoi nous avons le plus de problèmes dans la sous-région? Parce que tout simplement, nous avons des hommes qui ont préféré laisser l'éthique pour satisfaire, pour conserver le prestige social et les honneurs liés aux fonctions.
D'accord. C'est décision concrète d'éthique. Dans ce discours du président de la République.
Maintenant, concrètement, pour revenir encore sur la question de la démission, du droit du citoyen de demander la démission du président de la République, on n'a pas de mandat impératif au Mali. Le mandat impératif est interdit par la Constitution. Je crois que c'est l'article 62 ou 64. Donc, sur ces principes, déjà, la demande de démission d'un président de la République ne peut s'inscrire que dans le cadre de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion.
D'accord. Mais dans la décision concrète, parce que nous n'avons pas beaucoup.
Maintenant, par rapport aux mesures concrètes, très honnêtement, on n'en a pas vu hier. On s'attendait à des mesures plus fortes. On s'attendait à un discours plus pragmatique. Le choix des mots, le style n'a pas été convaincant. C'est vrai. Aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas opposé à l'organisation des partiels. Parlons des partiels. Les partiels ne sont soumises qu'à des conditions, c'est en cas de décès d'un député ou d'empêchement. Mais aujourd'hui, par un problème qui risque de mettre en mal son pouvoir, il est ouvert à l'organisation des partiels. Et moi, personnellement, du point de vue satisfaction, c'est le seul point qui me tient à cœur aujourd'hui, sinon peut-être le deuxième, parce qu'il y a la question du déni aussi qui a été abordée, qui est aussi très important, parce que le déni, les résolutions du déni, pour moi, sont plus représentatives que les revendications du M5 qui demandent des mesures qui parfois difficilement peuvent être exécutées, ne serait-ce que même par un homme de bonne foi ou encore...
D'accord. Si vous-même vous acceptez que des mesures concrètes, vous n'avez pas vu des mesures concrètes dans ce discours du président de la République, deux questions sont posées par des citoyens lambda très généralement. Pourquoi donc dans ce discours il n'y a pas eu de décision concrète? Est-ce parce que le président de la République ne mesure pas l'ampleur de la situation, ou est-ce que c'est parce que juste la situation est négligée?
Je ne peux pas affirmer que la situation est négligée, mais je pense que le président n'arrive pas jusque-là à faire l'évaluation concrète de la situation.
Pourquoi?
Peut-être que le président de la République, permettez-moi de le dire, il n'est pas au cœur de certaines réalités. Il est informé que par ses représentants, par ses conseillers et par ses proches collaborateurs.
Souleymane Diop, le président de la République, avez-vous l'impression, je vous donne la parole tout de suite, avez-vous l'impression que le président de la République est au cœur de la gestion de cette crise?
Moi, je crois qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui au Mali de penser que le président de la République n'est pas au courant de ce qui se passe. D'autant plus qu'on a l'habitude de voir ses présidents répondre, bien sûr, dans ses discours, à certaines personnes qui ont eu des critiques à son endroit.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans la gestion de cette crise?
Écoutez, je l'ai dit, on a tendance à trop tourner autour du pot et à faire énormément de spéculations intellectuelles en la matière. Nous l'avons dit et nous allons continuer à le dire, que le droit public en la matière a atteint des limites. Moi, je vais le dire de façon très simple. Le président, dans la Constitution, il a 5 pouvoirs qu'il ne partage pas. C'est les pouvoirs qui sont dans l'article 38, dans l'article 41, dans l'article 42, dans l'article 45 et dans l'article 50. Ce sont ces 5 pouvoirs qu'il ne partage pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit que le président, il a dit lui-même, Balan, il a constitutionnellement le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je ne suis pas peut-être d'accord avec mon jeune frère
Sirou
Ben Doumbia quand il pense qu'il y a des conditions matérielles qui se posent. Vous savez que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Et cette Assemblée nationale, elle a la double fonction de contrôler l'action gouvernementale, mais surtout de voter des lois essentielles. Nous sommes dans une crise et la sortie de crise nécessitera forcément le vote d'un certain nombre de lois. Et c'est à ce niveau que c'est très important. Et les réformes qui sont engagées doivent être portées et seront portées par cette Assemblée nationale. Vous savez qu'on ne réussira aucune réforme tant que le peuple ne pense pas que l'Assemblée qui est là est réellement représentative, elle la représente réellement. Et sur un certain nombre d'éléments, je m'en vais revenir pour dire que la Cour constitutionnelle, à mon avis, il y a un gros problème. Vous avez parlé du fonctionnement régulier des institutions, c'est régi par l'article 85 de notre Constitution. Pour moi, aujourd'hui, c'est toutes les institutions de la République qui sont paralysées. Toutes les institutions, sans exception aucune. On l'a dit, on ne va pas répéter tout ce qu'on reproche aux institutions, mais si nous reprochons au président de la République la présidentialisation du pouvoir, on a reproché au gouvernement son caractère pléthorique et tout ce qu'on veut, et même la timidité dans les transferts de compétences vers les collectivités territoriales et autres. On a reproché à l'Assemblée nationale la transhumance politique et que les instruments insuffisants dont elle dispose pour assurer le contrôle de l'action gouvernementale. On a dit le Haut Conseil des collectivités, le mandat est fini depuis le 18 mars 2012. Donc oui, pour moi aujourd'hui, surtout, c'est les institutions du Mali qui sont paralysées. Et pour cette raison, nous pensons que le président devait prendre des mesures fortes. Et d'ailleurs, le président a désavoué hier, et c'est ce qu'il faut retenir dans son discours, la Cour constitutionnelle du Mali. Il l'a désavoué. Il a dit que la crise, elle est palpable depuis le résultat définitif prononcé. Et là, il y a un problème. On a signalé à l'époque que Manassa, pour une fois, s'est rendu coupable de forfaiture. On n'en parle pas. Pourtant, en 2018, le collectif des candidats à la présidentielle avait déposé une plainte contre elle pour forfaiture. À l'époque, on a dit que vu l'état actuel du corpus juridique, on ne pouvait pas engager des procédures contre Manassa. Mais cette fois-ci, oui. Pour la simple raison que vous verrez très bien que Manassa, le jour où elle a prononcé le résultat définitif, ce que nous appelons le prononcé du délibéré, et l'arrêt qui a été publié dans les journaux officiels, il y avait une différence. Et ça, c'est suffisant pour montrer à la face des Maliens que le résultat que Manassa avait entre les mains, le jour où elle a proclamé le résultat, n'était pas le résultat qui est sorti de la délibération. Sinon, pourquoi aujourd'hui le président va demander à ce que les présidents des autres juridictions constitutionnelles de la CEDEAO viennent au Mali nous aider à sortir de là? Tout cela pour dire que il faut faire extrêmement attention. Oui, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et comme Balan l'a dit, ce n'est qu'après une dissolution qu'il ne peut pas dissoudre sans attendre le délai d'un mois. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis d'accord avec Ben qu'il ne peut pas dissoudre. Tant qu'on ne réglera pas le problème de remembrement de la Cour constitutionnelle, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui reçoit les candidatures, qui proclame la liste des candidats, qui vide le contentieux et qui proclame les résultats définitifs. Donc sans Cour constitutionnelle, on ne peut même pas aller à ces élections partielles. Il faut régler le problème de la Cour constitutionnelle. Et surtout, comme Ben a dit, il faut régler cette question de remembrement. Parce que le président ne nommera que deux. Manassa est toujours en place. Et Moussa Tembiné va nommer deux. Il a dit lui-même, la frustration majeure, c'est le fait que le candidat qui a été déclaré élu par la Cour constitutionnelle. Ça n'est pas l'air.
On va y revenir. Et donc, certains regrettent également que le président de la République, dans son discours, ait présenté des condoléances aux Ivoiriens à travers le décès de M. Koulibaly, alors qu'il y a des attaques qui ont eu lieu cette semaine même à travers le pays.
Oui, bon, à ce niveau, moi, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Le président, il était effectivement dans son plein droit de présenter des condoléances suite au décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui est un pays frère. C'est tout à fait normal. Un autre pays, un autre chef d'État de notre pays aurait fait peut-être même chose. Donc, l'occasion, il a profité tout simplement d'une sortie. Il a profité tout simplement de l'occasion pour présenter sa condoléance. Et moi, je pense qu'en tant qu'être humain, cela est tout à fait normal. Maintenant, pour revenir à ce que disait Souleymane Dé tout à l'heure, on est d'accord sur le fait que le président, actuellement, il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée. Maintenant, par rapport à la question de la temporalité, effectivement, la question peut se poser. Parce que la Cour constitutionnelle, il faut régler le problème de la Cour constitutionnelle d'abord avant d'entamer le problème de l'Assemblée nationale. Donc sur ce point, on est tout à fait d'accord. Maintenant, ce que je disais, c'est seulement en termes de clarification. Parce que dans le débat public ou dans le débat politique, on entend ici et là des gens qui disent que non, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée jusqu'à un délai de un an. Je voulais clarifier justement cela. Maintenant, après, les propositions de solutions qui ont été faites, moi je dirais qu'il n'y a eu qu'une seule proposition de solution qui a été faite par le président de la République. Et là encore, ça s'apparente à une promesse. Lorsqu'il dit qu'il faut, il a proposé avec d'ailleurs l'accord du Premier ministre, un accord politique des rassemblements nationaux qui va continuer jusqu'en 2023. Donc on sent que là, le président, la seule solution qu'il propose aux Maliens, c'est en fait un accord politique de rassemblement national. Comme si on est en fait dans une sorte de gestion momentanée du pouvoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des crises au Mali, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'on n'est jamais dans des propositions de solutions structurelles. On essaye de répondre à des problèmes qui sont là, momentanément, et on répond à ça. Demain, il y a un autre problème qui vient, on essaye de résoudre ça. Donc il faudrait à un moment donné que le président et l'ensemble du gouvernement, d'ailleurs, on puisse sortir justement de cette mauvaise gestion, de cette manière de gérer le pouvoir, qui n'est pas en fait une bonne manière de gérer un pays. Lorsque des crises, des manifestations ont commencé en 2018, suite également à l'élection du président de la République qui avait été contestée à l'époque, parce que l'opposition n'était pas d'accord avec les résultats. On a fait des manifestations, on a vu les opposants ont fait des manifestations dans la rue. Et après, le président, il a proposé quoi? Il a proposé un accord de gouvernance inclusive. Cela a permis effectivement à certains membres de l'opposition d'entrer dans le gouvernement, dont Tchéblin Dramé. Et donc l'opposition, il l'a muselé comme ça. Parce que cet accord de gouvernance politique inclusif a été en fait un moyen pour le président de la République de récupérer l'opposition. Donc l'opposition républicaine a été récupérée dès lors. Mais on a oublié que la vraie opposition, elle est dans la rue. Et aujourd'hui, le président, à travers ce qu'il dit hier soir, c'est partir avec la même stratégie et récupérer encore cette opposition qui est là, la faire taire, et après on va se retrouver encore face à d'autres problèmes.
Et quand M5 déclare qu'il est déçu de ce discours du président de la République, à quoi faut-il s'attendre désormais?
Non, mais il faut
Puisqu'il y a une manifestation qui est prévue ce vendredi.
Non, mais il faut s'attendre tout simplement à un durcissement des rapports de force encore. Parce que le M5, ils avaient demandé au départ la démission du président de la République. Et hier soir, quand le président dit qu'il faut sortir du refus, s'adressant au M5, quand il dit qu'il faut que le M5 se ressaisisse, moi je pense que ceci ne sont pas en fait des propos que le président devrait tenir en des circonstances pareilles. Il devrait être dans la posture de celui qui veut amener l'accalmie dans le jeu, qui veut apaiser les rapports. Mais si lui-même il vient avec des propos de nature à blesser ses adversaires, on comprend bien évidemment qu'il n'est pas dans la posture de résolution des problèmes. Et donc à ce niveau, le M5, qu'on le veuille ou non, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Parce qu'au départ, ils demandaient la démission du président de la République et ils disent, à défaut de cette démission, il faut que l'Assemblée nationale soit dissoute, il faut que la Cour constitutionnelle soit renouvelée. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de solution qui est proposée jusqu'ici.
– Monsieur Doumbia, à quoi faut-il s'attendre ?
– Non, il dit, on était dans l'incertitude concernant la rupture, mais je crois qu'à partir du discours du président de la République, la rupture est réelle. Et du moment où le M5 est sorti ce matin pour dire que ce fut une déception, je crois qu'aujourd'hui, les jours décisifs, les jours suivants, notamment demain, sera très décisif sur la question. À moins que le président fasse encore une sortie ce soir pour rectifier le tir. Sinon, ce discours, pour être très honnête avec vous, il y a plus d'éléments décevants que d'éléments persuasifs.
Surtout quand le M5 annonce une désobéissance civile.
Une désobéissance civile, ils vont jusqu'à demander à assiéger les lieux stratégiques, notamment les impôts, la douane et autres endroits. Ça fait peur, qu'Allah nous en épargne. Mais contrairement par rapport à ce que mon frère Bala venait de dire, moi, par rapport à la dissolution pure de l'Assemblée nationale, je ne suis pas certain que cela peut résoudre le problème. Il y a des députés qui ont été élus sans problème dans les circonscriptions. Ils ont investi de l'argent. Ils ont pris des risques sécuritaires pour aller faire campagne. Si aujourd'hui, il faut opérer une dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale, cela reviendrait à ramener tout le monde à la case départ. Alors, y a-t-il dommage quelque part ou pas? En voulant corriger une injustice, on en commet une autre. Et de contestation en contestation, on n'en sortira pas.
Et c'est ce que le président a déclaré dans son discours.
Le président a parlé de partiel. Il a parlé de partiel. Et c'est là que je me réjouis. Parce que pendant longtemps, je n'ai pas cessé à le dire. Je dis que moi, personnellement, je suis partant pour l'organisation des élections partielles. Les circonscriptions où le vote a été, où la fraude a été matériellement très, très visible, où il y a eu plus de contestations sont connues. On a 147 députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les contestations portent sur une trentaine de députés. Ça veut dire que même moins du tiers, si je peux dire. Alors, pourquoi dissoudre toute une institution pour, au lieu qu'aujourd'hui, organiser des élections partielles revient en termes de coûts, en termes de temps et en termes de dommages collatéraux plus amortissables que la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale. Et je pense que ce n'est pas impossible et je suis sûr qu'en tant que
personne n'est pris de paix. Les leaders du M5 ne seront même pas opposés à cette idée si elle venait du président de la République. Mais effectivement, le président, il a annoncé. Mais il a annoncé dans quel style, avec quel verbe, dans quelle intention. C'était une promesse. Aujourd'hui, on n'est plus dans la logique des promesses. Aujourd'hui, le peuple a besoin de discours concrets. Le peuple a besoin que le président sorte pour dire, bon, à partir de cet instant, je fais ceci. Et dès les 24 heures qui suivent, qu'on voit les résultats, qu'on voit des décrets sortis pour appuyer cette déclaration. Merci. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait.
Avez-vous peur, comme Bassirou Ben Doumbia, par rapport à la suite de ces événements?
Oui, nous, on a peur. Ah oui, mais bien sûr, tous les Maliens épris de paix aujourd'hui ont peur. Parce que, vous savez, moi, lorsque j'ai dit au départ que universitaire que je suis resté très amer. C'est que vous savez que le problème fondamental n'est même pas les revendications pour moi des M5. Le problème fondamental, c'est l'existence de l'État du Mali. Est-ce que l'État du Mali existe aujourd'hui réellement?
Il y a la fiction. Est-ce que
ah non, mais bien existe? Sûr. Mais c'est de notre devoir de le dire. Parce qu'on le sait tous que quand on parle des éléments constitutifs, on nous a tous appris, on le sait, on enseigne aussi à nos étudiants, que c'est le territoire. Est-ce qu'on a une emprise sur la totalité de notre territoire? La réponse est non.
D'accord. Il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. Oui, aujourd'hui, quelle solution? Comment résoudre cette crise sociopolitique
Alors,
que le Mali traverse?
Pour moi, il faut donner des réponses fortes, urgentes, aujourd'hui, à toutes ces contestations. En passant par ce que moi j'appelle le plus fondamental, la reconstruction de notre administration, le redéploiement de cette administration. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'aujourd'hui, quand même, le plus grave s'est produit. Les représentants de l'État ont demandé, en tout cas les syndicats, des représentants de l'État, a demandé à ce que tous les préfets qui sont dans des zones non sécurisées, ou du moins où ils estiment qu'ils ne sont pas en sécurité, de se replier. C'est l'abandon de l'État.
D'accord.
C'est le départ.
Quelle réponse aujourd'hui pour faire face à cette crise sociopolitique?
Non, moi je pense que les réponses, il faut écouter en fait le peuple. Un président, il est là pour le peuple. Et lorsque une partie, même si ce n'est pas la totalité du peuple, même si ce n'est pas le peuple tout entier, comme on le dit souvent dans notre constitution, mais à mon avis, ça c'est une tautologie, ça n'a pas de sens. Le peuple, c'est le peuple. Et on ne peut pas, en fait, disqualifier une partie de la population du peuple, comme on ne peut pas, en fait, s'asseoir et prétendre que toute la population d'un pays va sortir à un moment donné pour réclamer, pour se dire que nous sommes face au peuple. Donc le peuple, c'est une notion politique, comme je l'ai dit. Et en politique, c'est les rapports de force qui vont déterminer les choses. Maintenant, pour qu'on n'aille pas, justement, jusqu'à un niveau où chacun d'entre nous peut regretter, il faudrait bien évidemment que le président de la République écoute sagement en fait ce qui est dit dans la rue et qu'il essaye d'apporter des solutions aujourd'hui qui sont à son niveau. Et on sait qu'il a effectivement des possibilités pour répondre à ces réclamations qui sont faites par les manifestants. Donc il faut écouter le peuple et essayer d'apporter des solutions.
Passero, avez-vous l'impression que le président écoute son peuple et quelles propositions de solutions avez-vous?
Le peuple est une universalité, il venait de le dire, et j'atteste cela. Alors, si le peuple est une universalité, je crois que la meilleure formule aujourd'hui pour ce peuple-là d'avoir des hommes valables au sommet des institutions, dans le cadre du contrat social, reste la voie du suffrage universel. Si aujourd'hui le M5 se donne le privilège ou se permet de poser des revendications allant jusqu'à réduire les prérogatives présidentielles, le constitutionnel du président de la République, ça pose un problème. Il y a un risque de précédent qui va se poser. Je crois qu'il faut aussi comprendre la position des analystes politiques, la position des constitutionnalistes, la position même du régime dans ce sens-là. Sinon, de concession en concession, on peut parvenir à une paix pourvu que le Mali soit sauvé. Mais si cette acquisition de la paix peut aussi compromettre certains intérêts dans l'avenir, il faut s'en méfier. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour le Mali, c'est que le président sorte pour faire une déclaration sincère,
prenne des mesures pour faire face à cette crise sociopolitique que le Mali traverse. Merci à nos invités, Bassirou Ben Doumbia, président de la Conscience citoyenne pour la démocratie et le renouveau au Mali, considère Dr Souleymane Dé, constitutionnaliste, professeur à l'université de Bamako, et Balan Diakité, politologue, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Je suis Mohamedou Touré, à la régie vidéo et audio Peting Diarra et Mamadi Keïta. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mouni.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba.